Bonjour Alain, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours?
Bonjour, alors moi je suis un mathématicien appliqué à l'INRAE. Donc mon parcours, j'ai fait une thèse en mathématiques appliquées, en fait sur des problèmes de théorie des jeux, et j'étais amené un petit peu par hasard à m'intéresser à des problématiques biologiques et environnementales, si bien que j'ai pu candidater sur un poste à l'INRAE. Alors à l'époque, l'INRAE s'appelait en fait INRA. Et je ne connaissais pas du tout en fait l'institut, et c'est un peu par hasard que je me suis trouvé à répondre à candidater pardon, un poste dans cet institut qui cherchait justement spécifiquement quelqu'un qui avait un profil comme le mien, c'est-à-dire plutôt matheux. Et en fait, je me suis pris au jeu et j'ai découvert plein de choses puisque j'ai été recruté dans cet institut alors que je n'avais quasiment aucun bagage en biologie, en agronomie. J'ai eu un parcours plutôt d'ingénieur classique, disons, quand même avec une forte composante mathématique. Et donc aujourd'hui, ma mission au sein de l'Institut, c'est d'aider mes collègues qui sont justement moins matheux que moi, donc qui sont biologistes, agronomes, ou même éventuellement physiciens, chimistes, économistes. À résoudre des problèmes mathématiques qui leur sont utiles dans leur discipline. Donc c'est un travail en commun qui mélange des activités qu'on fait réellement ensemble et d'autres que je fais plus de mon côté, mais dans le but de revenir vers eux. Et donc typiquement, ce sont donc des questions où j'essaie d'aider mes collègues à formaliser des problèmes grâce à l'outil mathématique, ou bien des situations où les collègues développent déjà des modèles mathématiques, par exemple des simulations numériques, et ils rencontrent des difficultés à appliquer des méthodes classiques ou des problèmes par exemple, de vitesse de convergence ou d'instabilité. Et donc ils viennent me voir, on discute. Et j'essaie de voir si je ne peux pas les aider à adapter des méthodes existantes sur leurs problèmes ou éventuellement développer de nouvelles méthodes parce que les méthodes existantes pardon, ne conviennent pas. Et donc du coup, ça c'est un travail que je peux faire, je dirais, à mon rythme, eux en général n'ayant pas le temps de s'investir plus autant que moi sur ces questions mathématiques.
Tu disais que tu travaillais avec des gens allant de l'économie jusqu'à la biologie, l'agronomie, en passant aussi par la chimie. Ça fait donc quelque chose de très très large. Est-ce que ces gens-là, ils ont des questions mathématiques spécifiques, ou au final, en fait, toutes ces questions-là, même si leur discipline est différente, quand ils viennent te voir, ils restent quand même dans un champ assez simple de maths?
Alors déjà, je ne travaille pas simultanément avec toutes ces disciplines. Disons que la spécialité d'un labo de maths appliqué au sein de l'Institut, c'est effectivement de ne pas être attaché à une application particulière, donc se laisser la possibilité au cours de ses travaux de changer de thème applicatif. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'instant T, on travaille avec forcément beaucoup de spécialistes. C'est plutôt que les équipes vont changer, avec qui on travaille, pardon, vont changer au cours du temps, quoi. Alors, effectivement, chaque spécialité a des problèmes différents. Néanmoins, et je pense que ça fait partie aussi d'une des missions sur lesquelles nous sommes attendus, c'est de développer ce qu'on appelle des méthodes génériques, c'est-à-dire de s'apercevoir que, en essayant d'aider des collègues biologistes ou agronomes, par exemple des gens qui vont être donc, plus proches des biotechnologies, donc d'un monde plutôt industriel, des agronomes qui vont plutôt s'intéresser, par exemple, à l'écologie microbienne qu'il y a dans les sols, eh bien, c'est de s'apercevoir que dans les modélisations mathématiques, dans les problèmes qui se posent, il y a en fait des aspects communs que eux probablement ne se rendent pas compte parce qu'ils ne sont pas amenés forcément à fréquenter leurs autres collègues. Et donc nous, en tant que matheux, étant un petit peu extérieurs, on peut s'apercevoir qu'en fait ces deux mondes ont des choses en commun. Et on s'en aperçoit justement au moment où on cherche un aspect un peu générique dans les méthodes. Et ça peut être l'occasion, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, de suggérer des idées à des collègues d'une discipline venant d'une autre. Et personnellement, je trouve que c'est assez enrichissant, à la fois donc pour nous qui ne sommes pas spécialistes, mais aussi pour, on peut d'une certaine façon, à notre petite échelle, être des catalyseurs de collaboration possible entre deux disciplines.
Là, on a parlé pas mal du fait que c'est des gens qui viennent te voir avec qui tu vas, et avec qui tu vas discuter pour trouver une solution, mais tu as aussi évoqué l'opposé, où vous pouvez être aussi moteur de proposition, par exemple, où vous développez une théorie, tout ça. Et dans ces cas-là, comment vous allez contacter des chercheurs et comment vous allez choisir des chercheurs pour essayer de tester ça expérimentalement ou,
Alors, c'est difficile. Alors, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Moi, personnellement, j'aime bien privilégier ce qu'on appelle les écoles chercheurs, c'est-à-dire que avec d'autres collègues, on va proposer une formation, par exemple sur une semaine, dans laquelle on va essayer d'expliquer les approches que nous avons mises au point, en essayant de montrer justement cette dimension un petit peu générique. Et donc une façon de s'y prendre, c'est de mélanger des cours, je veux dire, un peu académiques, et de demander à d'autres collègues de venir sous forme de témoignages des collaborations qu'on a eues avec eux, pour justement susciter à d'autres collègues, d'autres disciplines, ce type de démarche qui est finalement un va-et-vient entre des problèmes appliqués et une formalisation plus générique.
Et en ce moment, tu travailles sur quoi alors? Tu travailles avec des chimistes, des biologistes? En ce moment, tu travailles sur quel thème?
Alors, je travaille sur, je vais dire, trois grands sujets, dont deux sont plutôt proches des biotechnologies, donc c'est des bioréacteurs. Alors, je travaille avec un collègue qui est dans un laboratoire de sciences pour l'oenologie, et on s'intéresse ensemble à des questions, à formaliser des questions que nous appelons de surrendement. Donc en gros, c'est l'idée de se poser la question, si j'ai deux populations microbiennes qui ont des fonctions analogues, par exemple convertir un substrat, donc ça peut être typiquement du sucre en oenologie, quoi, est-ce que si on les met ensemble, est-ce qu'elles peuvent produire plus que si elles étaient à quantité équivalente seules? Donc c'est comprendre et identifier de telles situations, quoi, dans des perspectives liées au réchauffement climatique. Un autre type d'application que j'ai, toujours aussi dans le domaine des biotechnologies, c'est autour de ce qu'on appelle la réutilisation des eaux usées. Donc la dépollution des eaux à l'aide de bioréacteurs, on utilise donc des micro-organismes pour débarrasser l'eau de certains polluants, comme les nitrates par exemple. Donc ça, c'est des choses très classiques qui existent aujourd'hui. L'idée, ce serait est de d'adapter le niveau de dépollution à des besoins des plantes, puisqu'on sait que les plantes ont besoin de nutriments, et que finalement, c'est peut-être dommage de dépolluer de l'eau, d'enlever les nitrates qui charge une eau, si on savait à l'avance que cette eau allait être réutilisée pour l'agriculture, pour l'irrigation, et qu'on doit rajouter des nutriments. Donc c'est une approche assez nouvelle, et comme c'est une discipline pour laquelle il est difficile d'expérimenter, on attend pas mal de la modélisation mathématique, de voir en simulation qu'est-ce qui est faisable. Où est-ce qu'il pourrait y avoir de l'optimisation? À quel niveau de gain on pourrait s'attendre? Et ça, c'est des choses qu'on essaie de développer de façon complètement, je dirais, numérique. Et la troisième type d'application que j'ai est plus proche des milieux naturels. Je suis dans un projet qui a été financé par l'ANR, où on s'intéresse à la compréhension des écosystèmes microbiens dans les sols. Toujours dans une optique très, très actuelle autour du réchauffement climatique, d'essayer de comprendre l'impact des politiques agricoles sur la fertilité des sols, sachant que cette fertilité est étroitement liée aux écosystèmes microbiens. Et à nouveau, vous voyez, si je vous ai cité ces trois exemples-là, c'est qu'un dénominateur commun, c'est justement les écosystèmes microbiens qui occupent actuellement une part importante de mes activités de modélisation et de développement mathématique.
Quand tu nous as parlé du recyclage des eaux usées, tu as parlé d'optimisation, mais c'est quoi les types de critères qu'on pourrait optimiser dans ce cas-là?
Alors, par exemple, pour être un peu plus concret, il y a des situations où la quantité d'eau disponible à traiter est limitée, ce qui est souvent le cas dans les pays du Sud. Et donc, une question qu'on peut se poser est la suivante. Étant donné une quantité d'eau disponible pour la saison, comment répartir au mieux cette eau d'irrigation dans le but de maximiser la biomasse au moment de la récolte. Donc si on réfléchit par exemple une situation sous serre, donc on n'a pas géré la difficulté des aléas climatiques, mais on peut quand même identifier des situations où si la quantité d'eau disponible est en dessous d'un seuil, on va donc être dans une situation dite de pénurie, ce qui veut dire qu'on ne va pas pouvoir garantir que à tout moment de l'année, entre le semis et la récolte, la plante sera ne sera pas en déficit d'eau. L'idée, c'est de voir comment optimiser les moments où elle va être en déficit pour que ça impacte le moins possible sa production de biomasse, quoi.
D'accord. Donc elles subissent la sécheresse au meilleur moment.
Voilà, d'une certaine façon, exactement, c'est comme si nous pouvions choisir les moments de sécheresse au cours d'une saison, quoi.
D'accord. Et plus spécifiquement, est-ce que tu pourrais nous parler d'un de tes derniers résultats?
Alors, je mentionnais tout à l'heure donc cette collaboration avec un collègue des sciences polonologie. Donc, on a identifié des conditions sur les caractéristiques de micro-organismes qui permettent de dire, d'un point de vue théorique, que si on met ces organismes ensemble, il y aura un surrendement. Et je suis assez fier de ce résultat-là parce que il n'est pas intuitif et c'est le développement mathématique qui nous a permis de mieux comprendre d'abord pourquoi c'est possible et également de développer des critères assez précis sur les caractéristiques de croissance de ces micro-organismes qui permettraient, alors je dis en théorie parce que toutes les expériences n'ont pas encore pu être menées, pardon, qui permet déjà en théorie de sélectionner parmi toute une collection de souches disponibles, celles pour lesquelles on peut espérer un surrendement important.
Et ces critères, c'est quoi?
Alors ces critères, ils sont difficiles à expliquer, ce sont des critères mathématiques sous forme de courbes de croissance qui doivent se croiser d'une certaine façon en corrélation avec des croisements de formes de rendement de ces micro-organismes, de rendement au sens de conversion d'un substrat en biomasse, quoi. Donc concrètement, ce sont donc des courbes qu'on peut obtenir expérimentalement pour chaque type de souche. Et une fois que ces courbes sont obtenues, on peut mathématiquement étudier les caractéristiques de ces courbes entre elles pour voir si un surrendement va être possible.
Tu disais aussi, tu nous as donné trois exemples qui sont toujours sur des écosystèmes microbiens, où les écosystèmes microbiens interviennent fortement. Est-ce que de ton point de vue, toi qui es extérieur à ça, tu te rends compte en fait que les questions qu'on se pose à la fois dans le sol, dans le recyclage de l'eau et dans l'œnologie sont au final les mêmes questions?
Alors, justement, donc si personnellement je me suis pas mal investi sur de façon très générale les écosystèmes microbiens, c'est justement parce que j'ai découvert que parmi plusieurs applications, dont les trois que j'ai citées, il y a des connaissances théoriques et de modélisation à développer qui sont vraiment enrichissantes pour les trois domaines. Il n'empêche qu'il y a bien évidemment des spécificités. Alors les spécificités, elles sont par des constantes de temps qui sont différentes. Typiquement dans les sols, les vitesses d'apport des substrats ne vont rien avoir avec celles qu'on peut avoir dans un bioréacteur industriel. Donc, bioréacteur, ça va beaucoup plus rapidement. Mais ce que je trouve intéressant, c'est finalement de s'apercevoir que dans un bioréacteur industriel, où on va chercher à faire de la transformation, en fait, on ne fait rien d'autre qu'imiter ce qui existe dans la nature, dans les sols, mais dans des conditions expérimentales bien contrôlées pour optimiser au mieux cette conversion. Mais le fondement de base, la mécanique, je dirais, de base de conversion, est la même. Les souches peuvent peut-être varier, mais les fonctionnements sont très voisins. Les différences se retrouvent aussi sur les objectifs, les critères. Dans les applications industrielles, il y a un critère de productivité qui vont nous guider pour proposer à nos collègues ce qu'on appelle des lois de commande, comment piloter un bioréacteur, comment ajuster des débits d'alimentation pour optimiser cette productivité. Quand on regarde dans les sols, on n'est pas du tout dans la même logique. On est plus dans une logique, dans un premier temps, de compréhension. Pourquoi un sol va être plus efficace qu'un autre? Pourquoi est-ce qu'un sol va mieux réagir qu'un autre face au changement climatique? Pourquoi un sol va relarguer, par exemple, plus de dioxyde de carbone qu'un autre à cause du réchauffement climatique? On est beaucoup plus difficilement dans un objectif d'aide à la décision, parce que ce sont des objets applicatifs pour lesquels les décisions ne sont pas aussi faciles à prendre et dépendent de nombreux paramètres, contrairement à des milieux plus contrôlés, plus fermés, comme on peut le trouver en milieu industriel, par exemple des biotechnologies.
D'accord. Maintenant, j'aimerais aborder des questions un peu différentes, plus sur le monde de la recherche en France. Donc, toi, tu es un directeur de recherche, qu'on peut opposer au chargé de recherche. Comment tu vois la différence entre les fonctions d'un directeur de recherche et les fonctions d'un chargé de recherche? Pour toi, c'est quoi qui fait la différence?
Alors, déjà, je ne les opposerai pas pour la raison suivante, c'est que je considère que directeur de recherche est une continuation relativement naturelle du métier de chargé de recherche. Alors pourquoi? Parce que pour passer directeur de recherche, donc, on passe un concours. Que ce soit à l'INRAE ou dans d'autres instituts, le concours consiste à présenter un projet de recherche. Et donc ce projet de recherche s'appuie sur les travaux d'un chargé de recherche, quoi. Ce qui fait la différence, c'est une prise de responsabilité un petit peu différente, puisque dans le projet de recherche qu'on présente à ce concours, on fait l'exercice de se projeter sur un nombre d'années plus ou moins grand, et de se projeter donc à la fois sur des questions scientifiques, donc les motiver, repérer les verrous, la dimension généricité est en particulier en général très importante, également sur le plan aussi des collaborations, puisque quand on est jeune chargé de recherche, qu'on débute, en général, on a un nombre relativement limité d'interlocuteurs qui va progressivement grandir avec l'expérience. Et dans le métier de directeur de recherche, on est justement amené aussi à jouer un rôle je dirais, de facilitateur entre collègues dans le but de monter des projets en commun.
Et au niveau on va dire, de l'aspect un peu ressources humaines, en général, quand on va devenir DR, on va peut-être être chef d'équipe, encadrer des techniciens, des ingénieurs, alors qu'en CER, on a moins cet aspect-là. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de très important dans le métier de DR, les aspects ressources humaines, ou c'est très variable d'un DR à l'autre?
Alors, moi je dirais que c'est très variable parce qu'effectivement, dans le passage CRDR, on peut mettre en avant dans son projet de recherche plus des questions purement scientifiques ou de verrous scientifiques, comme je les ai précédemment, tout en se projetant sur l'avenir avec une dimension de généricité, ou au contraire, plutôt une dimension montage d'équipe. Alors, étant dans un labo de Matapli, moi je n'ai pas directement accès à l'expérience. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas de responsabilité, je ne suis pas amené à avoir de responsabilité d'une équipe dans laquelle il y aurait par exemple des montages d'expérience. Donc, dans ce sens-là, je pense que je suis plus dans je veux dire, la catégorie des DR qui ont proposé un projet de recherche plus axé sur les développements scientifiques que des montages d'équipe. Ce qui ne m'a pas empêché néanmoins d'avoir eu une expérience de responsable d'équipe et également d'unité, quoi. Mais je la détache complètement du projet de recherche scientifique que j'ai proposé pour le passage DR.
Et donc la proportion de ces différentes fonctions va autant varier en fonction des personnes, mais aussi en fonction des disciplines. C'est-à-dire, plus on va avoir une discipline très expérimentale, plus l'aspect humain va être fort. C'est ça que tu dis?
Alors, je pense, oui, je pense aussi que ça peut évoluer aussi au cours du temps. Je pense que dans une carrière de chercheur, On peut avoir des périodes où on va être un peu plus, je dirais, monolithique que d'autres, c'est-à-dire que on peut buter sur un verrou méthodologique pour lequel on est convaincu que c'est vraiment important de faire sauter. Et on va donc pendant quelques années se concentrer presque exclusivement à cette question-là. Et ça peut être très bien suivi par des périodes où on va plus chercher à de nouvelles collaborations dans le but d'appliquer par exemple des méthodes qui ont été développées ou de voir peut-être dans une logique aussi de renouveler ces questions de recherche, quoi. Donc je dirais que c'est aussi, à mon avis, variable au cours du temps, quoi.
En parlant de variation au cours du temps, au-delà d'être directeur de recherche, tu as aussi été directeur d'unité pendant 6 ans, je crois. Et à l'heure actuelle, j'ai l'impression que on a beaucoup de mal à trouver des gens volontaires pour être directeur d'unité. Et d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'on a autant de mal à trouver des volontaires pour ces fonctions-là? Et est-ce que tu verrais une option pour le rendre cette fonction beaucoup plus attractive pour un directeur de recherche?
Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que quand on est directeur d'unité, c'est une activité très chronophage. Et moi, personnellement, ce qui m'a le plus gêné, c'est pas forcément la quantité totale de temps consacrée à l'administration de son unité, c'est plutôt le fait que ce temps-là est très morcelé au cours de l'année. Même dans la journée, on peut être amené à répondre très vite à des sollicitations, qu'elles soient par email ou par téléphone, qui fait qu'on est amené à sauter en fait d'une tâche à une autre. Et ça, par exemple, ça rend difficile de continuer à mener en parallèle sa propre activité de recherche, parce qu'on est, je dirais, trop souvent interrompu, quoi. Moi, personnellement, c'est ça qui m'a paru difficile, et j'imagine que ça doit être le cas aussi de pas mal d'autres unités. Donc si la responsabilité DU attire difficilement les chercheurs, je pense que c'est aussi parce qu'il y a une tâche aussi un petit peu d'ingratitude donc le temps passé à différentes réunions, le temps passé à préparer des évaluations. Bien évidemment, on peut se faire aider des collègues de l'unité. Mais souvent, c'est quand même des tâches dont on doit assurer plus ou moins seul la responsabilité. Et je trouve qu'elles ne sont pas toujours très bien reconnues. Et je pense que ça participe au fait que un chercheur qui est motivé par ces questions de recherche appréhende le fait qu'on lui dise, bah, tiens, demain, tu seras DU de ton unité, et donc il faudra que tu acceptes qu'il y a au moins un tiers du temps pour lequel tu seras trop occupé pour continuer ta propre recherche.
Et pour toi, alors, est-ce que tu verrais une solution pour aider à rendre ça plus valorisant, plus facile d'accès, plus motivant pour les scientifiques?
Alors, moi je trouve que on a nécessairement besoin à un moment donné d'une direction. Ne serait-ce que pour représenter, puisque dans l'émission d'un directeur, il y a une mission très importante qui est la représentation de l'unité à l'extérieur. En plus des questions d'arbitrage, d'évaluation, de choix de direction, la représentation à l'extérieur est une activité, à mon avis, importante dans le métier de directeur d'unité. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être facilement interchangeable. C'est pour ça que moi, je verrais bien un système où, au lieu d'avoir un directeur ou une directrice d'unité pendant 5 ans, ce serait d'avoir quelque chose de plus tournant, comme par exemple 2, 3 personnes qui accepteraient d'être directeur d'unité à tour de rôle seulement pendant 1 an, mais en gardant quand même, en se faisant aider par exemple de collaborateurs assez proches, que souvent on appelle d'ailleurs des co-directeurs ou directeurs associés, quoi.
Mais alors, ce serait plutôt de faire un roulement dans le temps, c'est-à-dire que j'occupe la place de DU pendant 6 mois, puis après c'est toi pendant 6 mois, puis ainsi de suite, ou plutôt de répartir la charge de travail parallèlement, c'est-à-dire moi je vais m'occuper de la partie représentation à l'extérieur, toi tu t'occuperas plutôt de la partie RH, et toi plutôt de la partie animation scientifique. C'est laquelle des deux ou c'est les deux?
Moi, je serais pour un mélange des deux.
D'accord.
Alors, il se trouve que notre système demande à ce qu'il y ait le nom d'une personne ou éventuellement d'un directeur adjoint. Donc, par rapport à l'attente de la direction, il faut mettre en avant le nom d'une personne. Donc, moi, je verrais bien un système où Donc, la personne qui sera affichée comme directeur d'unité pourrait l'être que pour une année, par exemple, et ça tournerait, ce qui ne l'empêcherait pas, ce qui ne serait pas incompatible avec des charges qui pourraient être déléguées. Mais ce qui serait bien, c'est que ces choses-là soient faites de façon, je dirais, un petit peu transparente. Et qu'elles soient accompagnées d'un minimum de reconnaissance pour ceux qui acceptent de passer un petit peu de temps à aider leur DU, quoi. Ce qui pour l'instant n'est pas dans la logique actuelle.
Pour terminer, j'aime bien poser des questions un peu plus personnelles, et notamment, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a rendu particulièrement fier dans ta carrière, dont tu as envie de parler,
Alors, il y a un résultat que j'ai obtenu il y a quelques années avec des collègues, donc c'est un travail en commun, qui a donné lieu à un brevet. Donc pour moi, c'est déjà une satisfaction, surtout en tant que matheux, un petit peu parfois éloigné des applications, d'avoir pu obtenir un brevet. Donc c'est une petite invention qui consiste, lorsqu'on doit par exemple dépolluer une ressource en eau, ça peut être un lac par exemple, en pompant un endroit et en rejetant un autre. C'est un petit algorithme qu'on a proposé qui permet, en mesurant au lieu de pompage la qualité de l'eau, d'adapter automatiquement le niveau de dépollution et le débit et les lieux de rejet dans le but de minimiser le temps nécessaire pour amener cette ressource en eau à un niveau de pollution en dessous d'un seuil, quoi.
Mais tu as dit que les niveaux, enfin les lieux de rejet, c'est assez facile à comprendre. Mais aussi le niveau de dépollution, ça va jouer sur quoi? Sur un certain nombre de filtres? Comment on peut faire varier un niveau de
Ah
dépollution?
oui, tout à fait. Alors, si on imagine donc une ressource en eau, un lac, directement connecté à un bioréacteur, donc ça veut dire que le débit soutiré du lac va être égal au débit d'alimentation du bioréacteur. Et donc, si je pense qu'on peut assez facilement saisir où est-ce qu'il y a un compromis. Si j'ai un débit important, ça veut dire que je vais pouvoir traiter rapidement l'eau du lac, mais je vais également faire passer un débit important dans le bioréacteur. Or, dans le bioréacteur, les agents qui dégradent la pollution, ce sont les micro-organismes, grâce à leur pouvoir de croissance. Ils vont convertir la matière polluante. Et donc, si j'ai un débit fort, ça veut dire que le temps de séjour va être court, et donc je vais laisser peu de temps aux bactéries pour faire leur conversion. Et donc, je sens que le rendement ne va pas être bon, quoi. Au contraire, si je prends un débit qui est lent, je vais laisser tout le temps qu'il faut à leurs bactéries pour bien croître. Donc, le rendement de conversion va être très bon. Mais le débit étant lent, je vais mettre beaucoup de temps pour traiter toute l'eau du lac. Donc, je pense qu'on sent qu'entre ces deux extrêmes, il y a un compromis à trouver. Et ce que nous avons montré, c'est que, contrairement à ce qui se fait traditionnellement, au lieu de chercher à régler une fois pour toutes le débit optimal, eh bien on propose que ce débit s'adapte automatiquement en fonction, j'ai envie de dire, des besoins du lac, sachant que une ressource en eau de fort volume a en général une forte hétérogénéité spatiale, qui fait qu'on ne va pas pouvoir forcément bien modéliser comment va se comporter la ressource au cours du temps. Et donc l'algorithme que nous avons proposé va justement s'adapter automatiquement, même si on ne connaît pas très bien les hétérogénéités spatiales de cette ressource.
Et vous avez des capteurs pour savoir justement si, en fonction de l'hétérogénéité spatiale, si on est plutôt dans une zone très polluée, peu polluée, comment vous allez mesurer pour adapter ce débit?
Tout à fait. Donc, alors, cet algorithme, c'est un travail qui, je veux, générique, un petit peu théorique, mais qui peut potentiellement s'appliquer à plein de situations. Donc, effectivement, on fait l'hypothèse que nous avons accès à un capteur parfait qui mesure une concentration en différents lieux. Et en fonction donc des lieux disponibles, on peut décider quel est le meilleur lieu. Est-ce qu'il est plus intéressant de rejeter en parallèle à différents endroits ou au contraire d'abandonner des points potentiels de rejet pour rejeter l'eau plus claire uniquement à un endroit donné, quoi.
D'accord.
Alors cette question aussi m'amène à penser aussi à ce qu'on appelle les captologiciels, logiciels, qui font aussi partie d'une de mes activités. Donc c'est toutes les situations où qui arrive finalement assez souvent dans les sciences du vivant. On rêve d'avoir certains capteurs, on voudrait mesurer à certains endroits une biomasse ou une concentration d'un certain composé ou un certain dégagement de dioxyde de carbone, par exemple. Et pour différentes raisons, on ne peut pas installer le capteur, les capteurs coûtent très cher ou ne sont pas fiables. Et bien, il y a malgré tout des situations où on peut remplacer ces capteurs inexistants par un capteur logiciel. Donc l'idée étant qu'à partir d'un modèle mathématique, si celui-ci est une suffisamment bonne représentation du réel, eh bien, avec un nombre limité de capteurs, le modèle va pouvoir en fait reconstruire les grandeurs qu'on ne peut pas mesurer, d'où le nom capteur logiciel, quoi. Et donc ça aussi, ça fait partie des questions que j'étudie et qui sont que je rencontre en fait dans beaucoup de domaines applicatifs.
Et à l'opposé donc des sources de fierté, est-ce que par exemple tu as un échec, une erreur ou quelque chose de ce style-là, une difficulté que tu aimerais partager avec nous?
Alors, disons que dans ma carrière, je ne sais pas si c'est un regret ou une erreur, peut-être un mélange des deux, mais je me suis trouvé à cumuler la direction de mon unité et la direction d'une équipe. Et donc, ce que je recommande à mes collègues, en fait, mes plus jeunes collègues, je pense que c'est très dangereux parce que ça fait quand même une énorme charge de travail et je pense que j'ai pas pu, à certains moments, j'ai pas pu assurer au mieux, comme je l'aurais souhaité, du moins les deux charges simultanées de direction de l'unité, direction de l'équipe. De plus, ça m'a amené dans des situations un petit peu difficiles de me trouver à la fois juge et partie, puisque on peut être sous l'emprise, je dirais, d'une critique de vouloir favoriser sa propre équipe, quoi. Donc c'est des situations pas faciles à gérer, quoi.
Enfin, pour terminer, si les gens voudraient, suite à cette conversation, te joindre pour poursuivre la conversation, quel est le meilleur moyen?
Alors, moi, j'utilise souvent pour commencer l'email parce que, en tant que matheux, j'aime bien que les choses soient précises et je trouve que la langue écrite est quand même celle qui apporte le plus de précision. Ce qui ne m'empêche pas, dans un deuxième temps, de pouvoir continuer des échanges par les outils de visioconférence, par exemple, quoi. Et in fine, après, j'aime bien utiliser le tableau. J'aime beaucoup travailler avec mes collègues en écrivant au tableau.
Eh ben, merci beaucoup pour toutes tes réponses.
C'était un plaisir.